Bonjour à tous, comme je disais, merci d'être venus si tôt. Donc c'est une journée d'études organisée par le laboratoire Sciences Dessinées après des journées d'études sur la ville avec qui a vu Peters venir intervenir. On a vu également Étienne Davodeau avec la journée sur la nature et quelques autres, notamment sur la science avec Marion Montaigne et d'autres arrivent. Par exemple, demain, nous organisons une journée d'études sur le genre et la bande dessinée en coopération avec le laboratoire junior Génère. Donc, cette journée va s'attacher à... Normalement, le principe étant de lier une science ou un domaine disciplinaire à la bande dessinée, nous allons nous attacher à présenter une journée sur le masque et sur les identités qui croisera donc la philosophie et la bande dessinée. Mais pas seulement, puisque nous avons d'autres spécialités ici. Donc pourquoi le masque, pourquoi les identités? Eh bien parce que le masque, me semble-t-il, peut être entre tous un matériau de premier intérêt pour la bande dessinée. Pourquoi? Parce que la bande dessinée a pour caractéristique de présenter des images dans un ordre qu'on pourrait dire séquentiel, c'est-à-dire qu'il y a des ellipses entre chaque case, et elle se prête, me semble-t-il, comme nous le verrons, je ne vais pas développer ce point, elle se prête au sujet, pardon. Donc le matin, nous aurons quatre intervenants, de très haute qualité évidemment, et cet après-midi, nous aurons l'honneur d'accueillir Trondheim, donc je vous invite à revenir cet après-midi, Trondheim qui viendra donc ici, qui sera là de 14h à 17h pour un long entretien mené par Véronique Desquet de Tours EPHE. Donc Trondheim, on le présentera tout à l'heure plus en détail, mais pour donner une idée, il a fait les îles Bourbon 1730, il a fait Donjon, il a fait Lapineau et tout un tas de choses que je laisse Véronique Desquet, qui arrivera tout à l'heure, vous présenter. Le matin, je parlais de quatre intervenants brillants. Alors, je pensais à Siegfried Barrot, qui va préparer une thèse sur le fascisme dans les comics et qui est à ma gauche, qui va présenter son intervention sur la banalité du masque, minimalisme et identité dans quelques œuvres d'Ibn al-Rabin et de Jason. Corrigez-moi si je me trompe. À 9h45, donc vous voyez, on est presque dans les temps. Ensuite, à 10h25, ça sera à mon tour, donc Thomas Crespo, de l'ENS de Lyon, j'espère futur agrégé de philosophie, et je présenterai quelque chose sur Watchmen et les identités de substitution dans cette œuvre d'Alan Moore et de David Gibbons. Ensuite, il y aura une petite pause pour qu'on rattrape notre retard, en fait. Et Isabelle Guillaume, qui est devant moi, à 11h15, Isabelle Guillaume de l'ENS de Lyon, présentera son intervention sur Dramatis Personae, valeur symbolique du masque dans The Sandman et The Invisibles. Enfin, Philippe Delisle, à 11h55, qui vient d'arriver, de l'Université Jean Moulin Lyon 3, présentera son intervention sur les masques américains, identité coloniale et catholique belge, la série Tiger Joe, de la Libre Belgique à Pilote. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Siegfried Barrot pour ne pas prendre du retard dès le départ, et je vous souhaite une bonne matinée.
Alors, bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, je vais préparer une thèse sur le comics, mais je ne vais absolument pas parler de comics aujourd'hui, parce que je vais aborder donc, minimalisme et identité dans quelques œuvres d'Inel Rabin et de Jason, donc deux auteurs français minimalistes. Donc, si je vous parle de masque, vous visualiserez sans doute un petit objet dont la fonction est de dissimuler le contour des yeux, voire tout le visage, comme c'est le cas avec ce masque-là. Mais vous accepterez sans peine, je suppose, l'idée que le costume, et même l'altération de la voix, un changement de la silhouette ou de l'attitude, sont aussi des masques, dans le sens où ils ne contribuent pas moins à dissimuler une identité que le masque facial. On peut donc définir le masque comme l'ensemble des procédés qui tendent à la dissimulation des particularités physiques, et empêchent donc la reconnaissance de la personne masquée, voire entraînent une identification qui diffère de l'identité d'origine dans le cas de l'imposture. Il faut ajouter à ces définitions que le masque possède généralement autant une fonction négatrice, dissimuler une identité, que créatrice, puisqu'il crée une nouvelle identité, que l'on appelle généralement identité secrète ou identité iconique, caractérisée par de nouvelles particularités physiques, un nouveau mode de vie, de nouvelles sociabilités. Ce qui n'est évidemment valable que dans le cas d'une identité individuelle, et donc d'un masque unique. Si une personne porte le masque de V, du V de V pour Vendetta, nous avons affaire, au sujet 5, habillé en V lui-même, donc ayant revêtu son identité iconique, ou à un imitateur. Si 50 personnes portent ce masque, nous avons affaire à des anonymous. La banalisation du masque aboutit à un effacement de l'individu, au profit d'une identité collective, mais donc une identité qui est aussi plus vague, moins personnelle, puisqu'on ne sait plus où est V, on ne sait même pas s'il se trouve dans cette foule de V, et bien sûr, on ignore l'identité de chacun de ses imitateurs. Donc la banalisation du masque casse l'identité iconique pour créer une confusion qui est d'abord diégétique, une confusion auprès des personnages de l'histoire, mais aussi auprès des lecteurs, puisqu'évidemment la plus grande partie des éléments classiques du masque, au sens large, sont de nature visuelle. La généralisation d'un graphisme qui est a priori perçu comme extraordinaire peut ainsi être une manière intéressante de jouer avec le lecteur et de le désorienter, mais aussi de réfléchir à la relation qu'il entretient avec l'identité ainsi multipliée. Donc voilà précisément les tensions que je vais vous proposer d'étudier dans certaines œuvres de Jason et d'Ibn al-Rabin, donc qui sont deux auteurs minimalistes francophones, qui ont notamment en commun d'avoir commencé tous les deux à écrire à la toute fin des années 1990. Tous les deux ont publié une grande partie de leur œuvre chez Atrabil, donc dans des maisons indépendantes ou de petite taille française. Tous les deux ont contribué au recueil, à l'anthologie Comics 2000 publiée par l'association. Et tous les deux proposent un questionnement sur l'identité qui justifie leur rapprochement. Première remarque amusante, les deux auteurs portent des masques, puisque tous deux sont connus sous leur pseudonyme. Jason est un auteur norvégien qui est installé en France, à Montpellier, et qui se nomme en effet John Arne Saiteroy. Tandis que derrière le nom pompeux d'Ibn al-Rabin se dissimule le Suisse Mathieu Baïf. Si j'ai choisi de traiter ces deux auteurs ensemble, c'est que tous deux se caractérisent par un traitement du personnage non seulement minimaliste dans son graphisme, mais d'un minimalisme qui est très radical et qui s'éloigne en ça des œuvres minimalistes auxquelles on est habitué, comme celle de Lewis Trondheim par exemple. Féminisme radical qui frappe d'emblée dès la lecture et qui est naturellement porteur d'enjeux importants, donc que je vais vous proposer d'étudier. Toute personne qui a déjà lorgné du côté de la théorie ou de la pratique de la bande dessinée sait que professeur, professionnel, manuel d'apprentissage s'accordent généralement pour dire qu'une histoire commence avec des personnages qui doivent accrocher le regard et donc qui doivent accrocher l'intérêt du lecteur, et ces personnages qui doivent manifester une certaine présence dans l'œuvre pour que l'œuvre soit vraiment valable et puisse parvenir à susciter cet intérêt. Cette présence est créée aussi bien par la mise en scène de ces personnages que par leur design, qui doit être distinct et fort, puisque c'est ce design qui, dans l'art graphique et la bande dessinée, parlera le premier au lecteur et lui donnera les premières indications sur l'identité de ces personnages. Jason Ibn al-Rabin ne respecte pas cette règle. Leurs œuvres se distinguent ainsi de la quasi-totalité des productions du 9e art par la très grande ressemblance entre les différents personnages, au sein de l'album et entre les différents albums de ses auteurs. Jason a ainsi choisi un univers entièrement thérianthrope, c'est-à-dire zoomorphe. Tous les personnages sont des êtres humains à l'apparence animale. Mais contrairement, par exemple, à Lewis Trondheim, on pense notamment aux formidables aventures de Lapino ou au Donjon, ou a fortiori à Canales et Guarnido dans Black Sad, ils se contentent d'un nombre très restreint de types animaux. Et son monde est presque entièrement constitué de deux espèces, une espèce vaguement canine, à laquelle appartiennent systématiquement ses personnages principaux, et une espèce aviaire, qui est proche du merle noir. Cette absence de variété se manifeste par une relative indifférenciation des personnages, souvent distinguée par une pilosité qui est à peine différente, une moustache, une petite barbe, parfois même pas, un museau un peu plus blanc, des oreilles un peu plus décollées. C'est le cas ici, vous voyez que les deux personnages sont relativement peu distingués. Cette planche est également intéressante parce qu'elle est extraite d'un album de Jason intitulé Hemingway. Il s'agit donc d'une bande dessinée biographique, un peu fantaisiste, puisque Jason imagine que Hemingway et ses contemporains écrivent de la bande dessinée plutôt que les romans qu'on leur connaît. Cette scène présente une rencontre entre Ernest Hemingway et l'écrivain Ezra Pound. Il est curieux de constater que Jason n'a pas cherché la moindre ressemblance entre l'écrivain Hemingway et le personnage qui le représente, qui est ici à droite, et ne s'est donc pas efforcé de le distinguer réellement dans l'œuvre. De sorte qu'en survolant l'ouvrage, on pourrait simplement ne pas comprendre qui est Hemingway, quel personnage incarne Hemingway dans cet album, ce qui est inattendu de la part d'une bande dessinée à caractère biographique. Un cas similaire peut être relevé dans l'album intitulé « Les loups-garous à Montpellier ». Ici. Bon. Où le personnage principal revêt un masque de loup-garou pour ses cambriolages, mais finit par être repéré par de vrais loups-garous. On a d'abord l'impression que l'on peut distinguer le loup-garou de l'être humain par la petite boule rose qui remplace le triangle au bout du museau, les yeux ronds qui prennent une forme amandine, qu'on a ici, les oreilles qui deviennent plus longues et pointues, et l'apparition de dents. Mais étrangement, ces transformations ne sont pas systématiques dans l'œuvre de Jason, et l'on trouve au cours de l'album des contre-exemples à chacun de ces éléments. Un loup-garou qui a des yeux ronds plutôt qu'amandins, un loup-garou dont on ne voit pas les dents, un loup-garou qui a les oreilles rondes et non pas pointues, disséminés de manière unique. Comme si Jason cherchait volontairement à nous empêcher de créer un système avec ses personnages, alors qu'on est dans un album classique qui ne fait que 46 pages. Donc il y a vraiment une volonté très marquée de désorienter et de ne pas faire système. Ibn Rabin va plus loin dans cette optique de gommage des particularismes physiques, puisque comme il l'admet lui-même, ces personnages ressemblent aux, je cite, « pictogrammes des chiottes ». Effectivement, tous sont figurés par un corps en aplat noir jusqu'aux épaules, puis une boule noire flottante en guise de tête. Ils n'ont donc pas d'yeux, de nez ou d'oreilles, et ne peuvent se distinguer les uns des autres que par une éventuelle pilosité, certains portent une barbe, une moustache, etc., ou une éventuelle vestimentation, qui est généralement purement fonctionnelle, une blouse pour un médecin, un képi pour un gendarme, etc. Il explique que ces détails vestimentaires lui ont paru indispensables à partir du moment où il a commencé à écrire de longues histoires, mettant en scène plusieurs personnages en interaction. Mais ils tiennent généralement de l'accessoire et sont loin de participer à l'identité des personnages. Il a par exemple écrit un album intitulé « L'autre fin du monde » qui dure 1000 pages. Donc on se doute qu'avec en gros la trentaine de protagonistes de ces 1000 pages, il aurait été assez difficile de les distinguer s'il s'était contenté des mêmes graphismes pour tous les personnages. Donc il ajoute simplement des blouses ou des barbes, mais va rarement plus loin. Et le but est uniquement de les distinguer. Il conserve même cette épure quand il représente des fantômes dans l'autre fin du monde, qui ont pour seule particularité d'être blancs plutôt que noirs, et de ne plus avoir de pieds, qui sont remplacés par une robe usée. Mais c'est un détail que l'on observe très rarement, puisque Ibn al-Rabin a une préférence pour le plan poitrine, c'est-à-dire un plan qui représente à peu près cette partie, donc qui ne représente jamais le bas du corps et a fortiori le bas de cette robe. Et donc l'absence de plan italien ou de plan en pied participe naturellement à l'économie recherchée, puisqu'ils permettent de résumer les personnages de la portion congrue. On voit rarement plus du plan poitrine de ces personnages, et donc de moins les définir graphiquement. Mais chez Ibn al-Rabin aussi bien que chez Jason, cette apposition universelle d'un masque engendre évidemment des contraintes graphiques qui pourraient être perçues comme des limites si les auteurs n'en avaient pas fait une de leurs marques de fabrique. Cette rigidité du système de représentation et les figures archétypiques choisies permettent en effet difficilement la représentation d'une véritable palette d'émotions, ce que les auteurs pallient en créant des personnages mélancoliques, découragés, au bord de la dépression ou simplement apathiques, trop distants de la réalité pour ressentir une émotion forte. Ils sont ainsi caractérisés par une tendance à l'inexpressivité, qui est, si j'ose dire, leur expression naturelle, puisque la tête d'un personnage d'Ibn al-Rabin inexpressif apparaît simplement comme un cercle noir fermé, comme c'est le cas à gauche, tandis que chez Jason, la bouche est représentée par un simple segment noir parallèle à la ligne des yeux, ce que vous avez par exemple ici, où les deux personnages sont effectivement inexpressifs, ce qui peut paraître curieux pour une couverture d'album. On s'attendrait plutôt à ce qu'ils expriment une certaine inquiétude, par exemple. Scott McCloud relevait 6 expressions de base dans Faire de la bande dessinée. Colère, joie, dégoût, peur, tristesse et surprise. Aucune n'est rendue vraiment naturelle par ces deux auteurs. Et les 3 premières, colère, joie et dégoût, sont même très rares, voire simplement absentes de leurs œuvres, parce que trop difficiles à représenter avec le graphisme qui est choisi. On a donc des graphismes qui appellent l'inexpressivité. Ainsi, dans « Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme », un album d'Ibn al-Rabin, le personnage que l'on pourrait qualifier de principal est obnubilé par le problème de la représentation réaliste dans la bande dessinée, Il est si obnubilé par ce problème qu'il ne prend absolument pas garde à l'invasion extraterrestre qui a lieu juste au dehors, et dont tous les autres personnages viennent lui parler. Ou dans « J'ai tué Adolf Hitler », un album de Jason, la vie intérieure du personnage de Sven, le personnage principal, est si pauvre qu'il travaille comme tueur à gages, mais d'une manière totalement dépassionnée, totalement ordinaire, dans un monde où ce métier est presque un métier normal. Quand malgré tout, donc même dans des situations extraordinaires, les auteurs tentent de justifier l'inexpressivité de ces personnages, le caractère ordinaire de situations totalement extraordinaires. Quand malgré tout, les deux auteurs ont besoin de ressentir une émotion forte, la peur par exemple, Jason recourt excessivement au symbolisme convenu de petites étoiles et de gouttes de sueur. Tandis que Ibn al-Rabin dessine une bouche béante et des gestes amples à ses personnages, dont il est assez malaisé, voire pratiquement impossible hors contexte, de déterminer s'il figure effectivement la peur ou s'il figure simplement des danses et des chants réalisés par les personnages. De même, les deux auteurs évitent les représentations de foule, parce qu'elles révéleraient trop le peu de variété de leur univers, et préfèrent des scènes intimistes où apparaissent rarement plus de deux personnages. Cet enfermement dans un style pose naturellement la question de l'identification. Il est généralement admis que la simplification du dessin, voire le recours au symbolisme, permettent une meilleure identification, parce qu'en tendant à l'abstraction, ils permettent à davantage de lecteurs de se sentir impliqués. Jason fait d'ailleurs très justement remarquer en interview qu'un lecteur qui a accepté le zoomorphisme des personnages adhérera plus facilement à ce qu'il peut ensuite leur arriver d'invraisemblable, parce qu'il lui est demandé dès le début de suspendre son incrédulité. Cette animalisation minimaliste des personnages justifierait donc une absence de détails qui risque de rendre les personnages trop particuliers, et donc empêcherait le processus d'identification. Jason déclare même, dans la même interview donc pour le site D8.9, « Moins il y a de signes pour décrire un visage, plus l'identification sera forte. Avec ce genre de dessin très simple, il est plus facile d'aborder des sujets fort variés. Je pense que si tu utilises un signe fort réaliste, cela peut distraire l'attention de ton lecteur. » Mais ce qui peut paraître vrai d'un masque purement physique est moins évident quand c'est la personnalité des personnages qui est limitée, et quand une partie des émotions de base leur est presque interdite. Ceux de Jason et Ibn al-Rabin présentent des aspérités qui sont assez intéressantes pour toucher le lecteur, mais celui-ci peut légitimement ressentir une gêne en comprenant qu'il existe toute une dimension de son affect à laquelle ces personnages ne pourront simplement jamais faire appel. Mais le masque apposé par ces deux auteurs s'avère surtout une force. Si l'on ne considère pas seulement les personnages par rapport à la propension identité-identification, ce que je viens de faire en essayant de voir jusqu'où on pouvait descendre dans l'effacement de l'identité tout en obtenant une relative identification, Ibn al-Rabin déclare lui-même ne pas trouver ces personnages passe-partout. Il écrit « Ils ont seulement un physique peu différencié, un genre de système esthético-communiste. » L'expression est évidemment très intéressante parce qu'elle ouvre de nouvelles pistes sur son système et sur celui de Jason, que l'on pourrait lire comme une manière de mettre les personnages à égalité. Quand Jean Giono relate le processus d'écriture d'Un roi sans divertissement, dans son essai Noé, il explique qu'il aurait pu raconter l'histoire de n'importe quel personnage croisé par Langlois, son personnage principal, et que l'histoire n'aurait pas été moins intéressante, mais que la linéarité de l'écrit l'avait contraint de suivre qu'un parcours, à ne raconter qu'une histoire. Le dessin de Jason Ibn al-Rabin peut constituer une réponse à ce problème. Il faut d'abord constater, c'est un point commun qui est assez frappant, que la plupart des inégalités physiques de notre monde n'existent pas dans leurs œuvres. On ne trouve simplement pas de gros, pas de personnages plus grands ou plus petits que les autres, à l'exception des enfants, pas de couleur de peau, donc pas de différence raciale. À quoi il faut ajouter que les personnages ne font jamais référence à leur couleur de cheveux, à leur couleur d'yeux, à leur pointure de chaussures, ou pour les personnages de Jason, à leur animalité. Donc, cela permet à Ibn al-Rabin de ne pas se contenter d'une histoire dans ses livres, mais de proposer des successions de scénettes, comme dans son livre « Retour écrémé » par exemple, ou de proposer une certaine choralité, en faisant se rejoindre plusieurs couples ou couples de personnages principaux, comme dans son grand œuvre « L'autre fin du monde ». Ce qui est une manière intéressante d'élargir le droit des personnages à occuper des rôles importants, puisqu'on ne suit plus un seul personnage, mais on suit plusieurs personnages, plusieurs couples de personnages. D'autant que ceux qui ne font clairement pas partie des personnages principaux, ceux qui sont assez peu approfondis par rapport aux autres, possèdent généralement une fonction comique qui est nécessaire dans l'économie des œuvres d'Ibn al-Rabin, et donc ont aussi un véritable rôle à jouer. Il déclare d'ailleurs dans une interview « Cette histoire de physique des protagonistes me rappelle qu'un des côtés insupportables de plein de films hollywoodiens à la con, c'est que les gentils sont beaux et les méchants tous moches. Cette égalité esthétique permet la redistribution des cartes, en empêchant les a priori du lecteur, et en empêchant l'auteur lui-même de coller une grille sur ses personnages, puisque ceux-ci n'ont plus d'existence présagée par leur physique, et ne peuvent donc plus que se définir par leurs paroles et par leurs actes. Ce système esthético-communiste est un véritable appel existentialiste. Il faut savoir que les personnages, eux, se distinguent très bien les uns des autres, bien mieux que le lecteur ne les distingue entre eux, et n'ont aucune conscience de leur ressemblance. Le masque n'est donc absolument pas diégétique, mais il est posé par l'auteur sur les personnages à destination du lecteur. Jason se contente généralement, quant à lui, d'un personnage principal, qui devient souvent un couple principal, mais il joue de leur faible identité pour mettre en valeur les d'éphémères facettes d'autres figures de ses œuvres, qui deviennent autant de possibles évoqués. Je m'explique. Le héros de « Je vais te montrer quelque chose » rencontre l'homme à cause duquel il a été injustement accusé de meurtre et parvient à le convaincre de se dénoncer. Dans l'ascenseur qui les mène au bas de l'immeuble, donc puis au commissariat de police, ce dernier lui pose quelques questions sur sa dernière petite amie et lui demande notamment, lors de la séance, de quel film il l'avait rencontré. Il raconte « Chantons sous la pluie ». Il remarque « C'est un bon film ». Or, quelques pages auparavant, le héros avait croisé son ex, donc la dernière petite amie, accompagné de son nouveau copain et prévoyant d'aller voir « Chantons sous la pluie ». Et c'est le personnage principal qui avait remarqué « C'est un bon film ». Ou sur l'avant-dernière planche du même album, il va être tué par un tueur à gages. Et ses dernières paroles sont « Vous n'avez jamais aimé personne, n'est-ce pas ?» Or, dans « J'ai tué Adolf Hitler », donc un autre album de Jason, le personnage principal, qui est physiquement identique à celui de « Je vais te montrer quelque chose », est lui-même tueur à gages. Ou pour prendre un dernier exemple, au début de « Je vais te montrer quelque chose », le personnage principal se demandait combien d'anecdotes intéressantes il pourrait raconter lors d'une soirée. Après sa mort, sur la dernière planche de l'album, une femme dont il a failli tomber amoureux participe à une soirée où la même question est posée et elle répond qu'elle a vu un homme mort, le personnage principal. Enfin, la dernière case est un gros plan sur ses yeux. Vous auriez pu voir ici s'il avait pu scanner l'image. Mais ce visage rappelle le visage du personnage principal, donc qui est également noir avec les mêmes yeux ronds. Mais elle est aussi en vis-à-vis d'un gros plan sur le visage du tueur à gages, qui se trouve juste ici. Donc l'idée même de l'album prouve cette volonté de communisme esthétique, puisque Jason fait assez explicitement référence à « Fenêtre sur cour » de Hitchcock. Donc, si vous pouvez voir la couverture, la référence est assez explicite. Mais il préfère dresser un parallèle entre le personnage principal et le tueur à gages que d'opposer, comme le faisait Hitchcock, un héros classieux et sexy, James Stewart, au personnage de l'assassin, Raymond Burr, qui est présenté comme absolument monstrueux. Donc, cette idée de la transmission de la vie et de la multiplicité des possibles parcourt toute l'œuvre de Jason, et elle est rendue possible par cette familiarité, cette ressemblance entre tous les personnages. Je vous rappelle donc, voici Hemingway, voici le personnage principal des loups-garous de Montpellier, et voici le personnage principal de J'ai tué Adolf Hitler. Donc des personnages qui sont absolument identiques les uns aux autres. Donc dans l'œuvre de Jason, comme dans celle d'Imnal Rabin, si le masque gomme les particularités individuelles des personnages, il contribue à forger une identité commune à tous les personnages grâce à ce même effet de sérialité et à mettre en valeur la part d'invariant qui est la substantifique moelle de leurs histoires et du style de leurs auteurs. Donc c'est finalement par ce masquage des personnages que le style et la personnalité des auteurs sont identifiés, donc que les auteurs sont démasqués. Je vous remercie.
Merci. Si. Du coup. Donc merci Siegfried. Est-ce que je fais passer le micro parce que je ne sais pas comment il marche. Mais...
Non,
c'est bien. Très bien. J'invite le public s'il le souhaite à poser toutes les questions qu'il veut puisqu'on on a le temps.
Ouais. Moi, j'aimerais juste savoir s'ils avaient dessiné autre chose que ça parce que est-ce que tu as sélectionné ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre des deux?
Alors Jason, pendant sa période norvégienne, donc en gros les années 95-98, avait opté pour un style plus réaliste avant de passer à l'animalisation, qui caractérise toute sa période française, en gros de 2000 à la période actuelle. Et Ibn al-Rabin, à part quelques planches qu'il publie dans des fanzines, dans ses albums officiels, n'a jamais opté pour un autre style que celui qu'il présente, que j'ai présenté ici. Donc ces deux auteurs, on peut vraiment dire qu'ils se caractérisent par le style que je viens de présenter. Autre question ? Oui.
Une toute petite question, en fait, quand tu démontres à la fin que les personnages de Jason sont les mêmes à travers les albums, au final, moi, ça me rappelle aussi Miyazaki qui avait tendance... Tezuka, qui avait tendance, en fait, à réutiliser toujours un peu les mêmes personnages, que ce soit Monsieur Moustache ou lui-même représenté, etc. Et il l'expliquait parce que la façon la plus simple pour lui, c'était comme des acteurs qui l'utilisaient d'album en album. Est-ce que, quelque part, c'est pour toi, il y a une corrélation ou pas du tout ?
Alors, l'exemple intéressant, puisque effectivement, Tezuka, dans la plupart de ses œuvres, c'est surtout qu'il se représente lui-même, ce que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, le personnage canin de Jason ressemble vaguement à Jason lui-même. Donc là, j'ai pas d'image, mais effectivement, il a un menton qui a un peu prognate, enfin, il a un physique particulier qui, effectivement, peut ressembler à celui de son personnage principal. Et comme ce personnage principal est commun à toutes ses œuvres, et que ses œuvres parlent de la multiplicité des possibles, de ce qu'on pourrait faire plus tard dans notre vie ou dans une autre vie, effectivement, on peut y voir des figures de l'auteur, mais des figures, des facettes, pratiquement, enfin, qui ne peuvent pas coïncider, mais qui sont autant de facettes possibles. Ce qui est effectivement, dans une certaine mesure, le cas aussi quand Tezuka sort en lui-même dans des œuvres totalement fantaisistes. Donc oui, dans ce sens-là, je pense que le parallèle est pertinent. Oui. J'ai répondu ?
Parfait.
Très bien.
Moi, j'aurais une question aussi.
Très bien.
Tu dis que la ressemblance des personnages, donc ce graphisme en... pictogramme sur les chiottes, comme dit l'auteur, ça gomme les différences entre gros, petit, grand, et ça donne gomme les différences de race et ainsi de suite. Dans quelle mesure c'est un effet voulu ? Par exemple, on a vu qu'il y avait visiblement une femme, puisqu'on voit la robe, on voit la forme des seins et ainsi de suite. Bon, en plus, demain, on a une journée d'études sur le genre, alors je pense que c'est pas une question complètement... inutile. Dans quelle mesure c'est voulu par l'auteur et dans quelle mesure il s'inscrit dans une certaine dynamique qui vise à je sais pas, est-ce qu'on se concentre essentiellement sur les personnages et pas sur leur apparence extérieure ? Je sais pas si ma question est très claire.
Si, mais finalement c'est ce que j'explique par cette volonté de créer un esthético-communisme, c'est vraiment l'idée de remettre tous les personnages à plat pour empêcher que le lecteur ait des prérequis et des a priori sur les personnages. Quand on voit un personnage de couleur noire, par exemple, dans une bande dessinée, on s'imagine assez vite qu'il y aura que le racisme sera abordé. Ou dans des bandes dessinées, la Daniel Close, par exemple, si on voit un petit enfant gros, un peu nerd, on s'imagine bien qu'il sera persécuté par ses camarades. Ou quand on voit une femme sexy, on s'imagine bien qu'il y aura des histoires de séduction. Alors ces questions, ça ne peut pas entrer en ligne de compte dans la lecture d'Ibn al-Rabin, parce que ces a priori sont rendus impossibles par le gommage de ces particularités physiques. Donc c'est une manière de vraiment recentrer l'attention du lecteur sur l'histoire, de faire des personnages, des vecteurs d'une certaine parole, donc qui se définissent par leurs actions et par leurs paroles, et aucunement par leur physique ou l'idée qu'on pourrait coller sur ces personnages, a priori.
Je me posais la question parce que des gens comme Lee Edelman, par exemple, ont travaillé sur les pictogrammes sur les toilettes, justement, et je me demandais pourquoi il n'était pas allé... complètement au bout, même si c'est déjà extrémiste, mais je me demandais pourquoi il n'était pas allé complètement au bout de son exercice en gommant même la différence de genre ou de sexe, peu importe ici.
Alors, il a essayé dans quelques fanzines. Ouais. Bon, il faut savoir que c'est un auteur qui est extrêmement expérimental. Dans ses fanzines, il poursuit vraiment des pistes assez radicales qui le rapprochent des expérimentations de Trondheim, par exemple. Donc il a essayé effectivement, mais il admet que c'est un système qui... déjà là, il a la limite du lisible. On peut déjà être rebuté par son graphisme, qu'on peut trouver trop peu varié, d'autant qu'il se contente généralement de noir et blanc, il vient de passer la couleur, mais les personnages restent les mêmes. Donc déjà, son système est à la limite du lisible, et il admet que aller plus loin dans l'expérimentation, aller plus loin dans la figuration de pictogrammes de chiottes pour des histoires, rend le résultat complètement illisible. C'est intéressant dans le cadre d'un fanzine, mais dans le cadre d'une œuvre qui fait plus de 40 pages, et en gros toutes les œuvres d'Ibn al-Arabin ont un certain format, le résultat est illisible et la diégèse n'est plus du tout compréhensible. Donc le but, c'est vraiment de frôler cette limite, mais de ne jamais la dépasser, pour que son œuvre continue d'être à la fois intéressante dans son graphisme, mais lisible et accessible.
Ouais, oui. Quand tu parles d'indifférenciation de couleur de peau, de d'origine sociale, tout ça, je suis d'accord pour ça, mais par contre, pour le genre, il n'y a clairement pas d'indifférenciation.
Oui, le genre, c'est la seule limite. Il a voulu quand même conserver des personnages masculins et féminins pour une certaine dynamique.
Ouais, en fait, ce qu'il a conservé, c'est des personnages neutres et des personnages féminins. C'est ça qui est un peu frappant.
Les personnages neutres sont quand même masculins, donc on ne peut pas vraiment les appeler neutres.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a c'est frappant que dans une œuvre qui cherche à justement effacer toutes les particularités, on se sente obligé de remettre en avant l'énorme poitrine du personnage féminin. Alors, enfin, je ne sais pas si c'était nécessaire, s'il arrive à rendre ça compréhensible avec tous les...
Le but, c'est quand même de conserver une petite variété, puisqu'encore une fois, l'autre fin du monde, quand on fait 1000 pages, faire 1000 pages avec des personnages exclusivement neutres, c'est relativement difficile, surtout que le but, c'est quand même de rechercher une relative identification avec la mélancolie des personnages principaux, et qu'il y a une certaine dynamique qu'il doit conserver. Le personnage principal, par exemple, vient de perdre sa femme. Donc si on perdait cette idée de homme qui perd sa femme pour personnage neutre qui perd un personnage neutre, on serait moins impliqué dans l'histoire. Donc c'est une limite, on peut trouver que c'est une limite effectivement à son système. Lui, il l'a vu comme un peu un strict minimum pour conserver un dynamisme. Après, il faut voir qu'il n'y a absolument pas de sexisation des personnages, au sens où les personnages féminins n'ont pas de vraie forme. Il est impossible de distinguer a priori si un personnage féminin va être séduit par un autre ou est considéré comme laid par les autres, puisqu'on ne parle pas du physique des personnages.
Oui, c'est vrai, j'étais pas en train de...
Non, mais donc, on ne distingue pas les personnages par rapport à leur taille de poitrine, on les distingue pas par rapport à leur coiffure, etc. À ce niveau-là, c'est vraiment l'idée des pictogrammes. Il y a les personnages masculins et les personnages féminins. Okay. Il n'y a pas de différence physique, de qualité de ces personnages masculins ou de ces personnages féminins.
Oui, mais en fait, le genre est la dernière frontière, quoi, le dernier...
Oui, c'est l'idée.
La dernière résistance identitaire. Ok.
Très bien.
Une autre question. En fait, est-ce que là, tu montrais à quel point ils avaient une démarche autoriste, et dans quelle mesure, si on prend l'exemple de l'île aux 100 000 morts, le travail de Velleman, du coup, se diffuse ou se dissout dans Jason, dans le traitement graphique de Jason? Et dans quelle mesure, justement, tu as trouvé que Velleman restait, entre guillemets, l'auteur, le scénariste qu'il est habituellement, et Jason réussissait un ping-pong sur cette histoire? Enfin,
alors, les 200 000 morts, effectivement, c'est un cas intéressant. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'image que j'avais présentée pour parler de du trait qui représente la bouche des personnages. Donc, une aventure de pirate. Ce qui est intéressant, c'est que si le nom de Velleman n'apparaissait pas sur la couverture, on pourrait parfaitement considérer que c'est une œuvre de Jason et que ça ne quitterait absolument pas les sentiers de la production de Jason. Les personnages sont ceux de Jason, l'humour ressemble à celui qui est ordinaire à Jason. Il y a toujours la même réflexion sur la transmission, puisque c'est une petite fille qui est à la recherche de son père, qui a une certaine relation d'amitié avec un autre personnage qui appartenant à une école de bourreaux. Donc il y a toujours cette histoire aussi des possibilités, un enfant qui rencontre un autre enfant qui a un parcours totalement différent, qui fait autre chose. Donc, les problématiques, autant que le style évidemment et l'humour de Jason, restent les mêmes. Donc l'intérêt, l'implication de Velleman, c'est surtout d'avoir apporté une touche de fantaisie à laquelle Jason n'aurait peut-être pas adhéré d'emblée, ou à laquelle il n'aurait certainement pas songé d'emblée, puisque ses univers à lui sont plus contemporains. Mais Velleman, à mon avis, a su très bien accaparer le style de Jason et rester extrêmement fidèle, au point que la démarche ressemble beaucoup plus à une démarche de Jason qu'à une démarche de Velleman.
Et